Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Je suis dans la situation de ne pouvoir ni parler, ni me taire. C'est vous, Marcel Cohen, qui avez énoncé cela à propos de cet événement écrasant, c'est votre terme, qu'a été pour vous la Shoah. Vous aviez 5 ans et demi quand votre famille, c'était le 14 août 1943, a été arrêtée par la police française à votre domicile du boulevard des Batignolles avant de disparaître à Auschwitz en 1943 et 1944. Par chance, ce jour-là, vous étiez sortie au parc Monceau avec la bonne, une jeune bretonne qui s'appelait Annette et était au service de vos grands-parents et vous n'avez pas été pris dans la rafle. Votre mère a été internée à l'hôpital Rothschild en attendant que votre sœur Monique, qui était âgée de 3 mois, et l'âge requis, je vous cite, pour le voyage vers Auschwitz via Drancy. 70 ans après ces faits, vous vous êtes résolu à parler et avez écrit un livre intitulé « Sur la scène intérieure » publié chez Gallimard dans la collection « L'un et l'autre » fondée par J.B. Pontalis. Marcel Cohen, vous êtes écrivain, vous avez derrière vous une œuvre importante, donc a priori écrire ne vous intimide pas, alors pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant d'écrire ce livre ?
Simplement, je n'en étais pas capable. Et pour une raison très simple, c'est que, vous l'avez rappelé, j'avais 5 ans et demi en 1943. Mes souvenirs étaient donc extrêmement ténus. Et je ne voyais pas comment on pouvait écrire un livre pour dire que l'on n'avait rien à dire, ou presque. Mais dire que l'on n'a rien à dire, c'est encore dire quelque chose. Et j'ai pensé que je devais le dire. J'ai pensé que je devais le dire le jour où on m'a offert le petit coquetier qui figure sur la couverture et qui avait été offert par ma mère à une amie de la famille en 1939. Et cette amie de la famille l'a gardé donc pendant 70 ans, religieusement. Et je me suis dit, des amis de la famille font quelque chose d'aussi, ont un geste aussi pieux, pour moi aussi je dois avoir ce geste.
Votre livre est découpé en 8 chapitres qui sont consacrés chacun à l'évocation de vos proches, votre mère, votre père, votre sœur Monique, vos grands-parents, votre oncle Joseph, une tante, votre oncle David. Et chaque chapitre est précédé d'une page blanche sur laquelle sont inscrits, comme sur une tombe, en fait, leur nom, leur date de naissance et la date et le numéro du convoi qu'ils ont pris pour Auschwitz. Et chaque texte, par sa brièveté autant que sa densité et ses silences aussi, s'apparente, il me semble, à un poème en prose. Pourquoi cette forme, en tout cas cette forme brève, s'est-elle imposée à vous ? Et pourquoi pas un récit linéaire, autobiographique, voire une fiction, comme ça se fait aussi ?
Une fiction, certainement pas. Je suis tout à fait opposé à la fiction dès qu'on touche à des sujets aussi sensibles. Mais un récit non plus. Je ne voyais pas comment un récit pouvait convenir. Et tout d'abord, comme je vous le disais, j'avais 5 ans et demi. Il ne me semblait pas honnête de reprendre les récits, les souvenirs plus exactement d'un enfant de 5 ans et demi et de les écrire sous forme de souvenirs. J'ai donc essayé, même si ce n'est pas possible, un psychanalyste nous dirait que ce n'est pas possible, j'ai souhaité qu'il soit aussi ténu et aussi linéaire que possible. Pas de littérature. Vous savez, j'appartiens à une génération d'écrivains qui se méfient terriblement de la littérature. Voilà.
Donc, vous souscrivez à ce que disait Adorno quand il disait « Écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare, d'une certaine façon. »
Alors, vous savez qu'il est revenu sur ce jugement.
Oui, oui.
Et à propos d'un poète juif, précisément, Paul Celan, en disant « Oui, si on doit écrire de la poésie, alors il faut écrire de la poésie après Auschwitz, mais qui tienne compte d'Auschwitz, bien sûr. » C'est évidemment le cas de Celan, c'est le cas de beaucoup d'autres poètes aussi. C'est le cas de beaucoup d'écrivains dont je suis. Le récit ne convient pas parce que c'est trop littéraire dans le mauvais sens du terme à mes yeux. Hein. Je parle pour moi, ce n'est pas une théorie. Parce que c'est trop logique. Ce qui est arrivé est beaucoup trop comment dire, beaucoup trop confus encore dans nos esprits, dans notre culture encore, pour que ça puisse être contenu sous la forme d'un récit. C'est pas possible. Et puis d'autre part, on oublie aussi qu'un récit, c'est la forme la plus artificielle qui soit. Ce qui est naturel, c'est le fragment. La pensée fonctionne comme ça, le souvenir aussi fonctionne comme ça. Donc j'ai trouvé qu'il ne fallait pas mélanger les souvenirs et il ne fallait pas non plus reconstruire tout cela.
Vous avez d'ailleurs pris soin de faire figurer en italique vos propres souvenirs, le reste étant ce que vous avez pu reconstituer via une enquête, on va dire, familiale ou... Parfois plus au-delà d'ailleurs, hein, vous menez véritablement l'enquête, par exemple sur l'origine de l'eau de Cologne. Vous avez une démarche parfois journalistique, je vais dire.
Alors, oui, journalistique, on peut utiliser ce mot, vous avez raison.
Ou d'historien, ou historique même. Ouais.
C'est tout ce qui reste quand on ne se souvient de rien. Voilà, il reste quoi? Il reste l'odeur d'une grand-mère, le parfum d'une mère, que je n'ai jamais réussi à identifier, mais qui a sans doute été très important pour moi. L'eau de Cologne qu'utilisait mon père, qui m'est revenu tout à fait par hasard. L'eau de Cologne qu'utilisait un oncle, l'oncle Joseph, que vous avez cité tout à l'heure, et qu'utilisait une autre eau de Cologne. Et il m'a fallu des décennies pour faire la différence entre celle qu'utilisait mon père et celle qu'utilisait mon oncle. Vous savez, le passé n'est jamais terminé, puisque nous sommes vivants et puisque nous sommes le fruit de ce passé. Donc, le passé, c'est une question de grammaire, mais ce n'est pas à l'échelle d'une vie d'homme. Ça n'est jamais terminé.
C'est ce qui vous a choqué lors de cette cérémonie là, que vous évoquez dans le livre, quand, en 1996, vous assistez au dévoilement d'une plaque à la mémoire des jeunes mères internées à l'hôpital Rothschild, comme l'a été votre mère. Et vous décrivez votre émotion quand deux infirmières apparaissent à la fenêtre de l'hôpital pour suivre la cérémonie, puisque c'est à cette fenêtre que se tenait votre mère pour la dernière fois. Et vous dites, si elle ne portait plus la coiffe blanche, elle ressemblait terriblement à leurs consœurs qui terrorisaient si bien les jeunes mères. Et un peu plus loin, en dépit de leur recueillement, leur petit air détaché semblait vouloir dire quelque chose comme « le passé est le passé ».
Le passé est le passé pour elle, mais pas pour moi. Moi, je voyais à la fois ces infirmières avec les yeux d'un enfant de 5 ans, et je les voyais donc comme de vieilles dames, et je les voyais aussi avec les yeux d'un homme de mon âge, c'est-à-dire comme de très jeunes femmes, qui évidemment n'étaient pas nées en 43. C'est donc bouleversant, mais vous savez, c'est toute la recherche du temps perdu de Proust, c'est sa conclusion dans Le temps retrouvé, à la fin de la recherche. Il n'y a pas de frontière tangible entre passé et présent.
Alors c'est justement là où je voulais en venir, parce que dans votre attention portée aux objets qui figurent, qui sont reproduits dans le livre, alors les objets, c'est par exemple le violon de votre père, donc le coquetier. Donc dans votre attention portée aux objets, dans votre manière de les ausculter, de les décortiquer, vous me faites penser à Francis Ponge et son parti pris des choses. Et d'un autre côté, c'est pour ça que je parlais du poème en prose au début, et d'un autre côté, l'importance que vous donnez aux parfums, justement, qui ont le pouvoir de ressusciter en quelque sorte les morts, fait penser à Proust. Donc je voulais vous demander si c'était deux références, Ponge et Proust, qui vous parlaient, et s'il y en avait d'autres, quelles étaient vos influences littéraires.
Ponge, par la forme, c'est absolument indépassable. Je crois que c'est l'une des grandes expériences littéraires de cette seconde moitié du XXe siècle, c'est évident. Quant à Proust, c'est indépassable aussi, et pour une raison simple, c'est qu'il y a un mot de Kundera qui se rapporte à Proust. Il dit, Kundera, c'est une comète de beauté pure, mais qui s'éloigne de nous à jamais. Et il fait remarquer, Kundera, que Proust et Kafka sont tout à fait contemporains, puisque l'un meurt en 1922 et l'autre en 1924, mais qu'un univers les sépare. Pour Proust, dit Kundera, par exemple, avoir des tendances homosexuelles, ça comment dire, ça conditionne toute une vie. Mais ça n'a plus aucun sens pour un héros de Kafka. Les héros de Kafka n'ont même pas de nom. Ils ont souvent une initiale. L'extraordinaire plongée dans le passé qui est celle de Proust et qui restitue toutes les subtilités d'une âme humaine, ça n'a plus d'importance pour Kafka. On a l'impression que des années-lumière se sont écoulées. Pourquoi les héros de Kafka sont écrasés par une espèce d'immanence comme ça? Bon, voilà, je pense que sont deux grands écrivains contemporains et que tout sépare.
Et pour autant, vous ne définiriez pas Proust comme un écrivain qui écrit de beaux livres. Je vous ai entendu à la radio dire que la plupart des livres qui paraissaient aujourd'hui étaient d'honnêtes livres du 19e siècle, qui, d'une certaine façon, au 20e siècle et encore plus, au 21e, on ne pouvait plus faire un beau livre, dans le sens un livre qui consente au monde tel qu'il est.
Ça rejoint ce que vous remarquiez au début de cet entretien. À propos de la poésie et à propos d'Adorno, on ne peut plus écrire selon une rhétorique et une logique qui effectivement appartiennent au passé. Et il faut aller plus loin, et je crois qu'il faut, ça c'est la forme, mais il faut se demander aussi si ça n'est pas dépassé sur le fond. Si les êtres humains sont encore en possession de tous les éléments qui leur permettent de comprendre leur propre vie, si leur propre vie est écrasée par tellement de choses qui sont la marque même de ce 20e siècle qui vient de se terminer, que leur destin ne leur appartient plus. C'était vrai pour les Juifs pendant la guerre, mais pas seulement. C'était vrai pour les combattants de 14-18. Souvenons-nous qu'on n'a pas hésité à envoyer des régiments entiers à l'assaut sans munitions, car on savait très bien que c'est le nombre et le nombre seulement qui permettrait de submerger l'ennemi. Il y aurait 70 à 80% de pertes, alors qu'ils aient ou non des munitions, ça ne changeait rien. Je dis quelque part que le XXe siècle a inventé l'abattage de masse. Et il faut penser que la Shoah n'est que l'ultime étape de cette invention monstrueuse qui est aussi née d'une culture, la culture dans laquelle nous baignons et que nous devons interroger.
Et pour vous, de cette façon, Auschwitz serait toujours possible, enfin ce que représente Auschwitz, bien sûr, pas forcément dans les formes actuelles, puisque là vous avez parlé de la guerre de 14, mais dans un livre qui est paru aussi cette année, qui s'appelle « À des années-lumière », qui est une transcription d'une conférence que vous aviez donnée en 98, vous évoquez aussi le sort tout simplement des ouvriers ou des employés, on va dire, sans parler même des ouvriers, ces millions de personnes dont les conditions d'existence sont également déterminées finalement par l'extérieur, en tout cas, et qui ne sont pas maîtres de leur destin.
Oui, c'est tout à fait vrai, ça se passe sous nos yeux. Ça se passe sous nos yeux et nous n'avons pas toujours envie d'aller regarder ça de très près. Mais je cite dans le petit livre que vous venez de citer un chiffre, un porte-conteneur qui vient de Shanghai avec l'équivalent de 700 millions de dollars d'ordinateurs. Et c'est un chiffre tout à fait raisonnable s'agissant d'un nouveau portable, par exemple, et qui va vers Rotterdam. Toute journée supplémentaire en mer représente une somme de 200 000 dollars. Alors, si vous ajoutez qu'un marin indien ou pakistanais gagne 500 dollars par mois, un marin cambodgien 100 dollars, vous imaginez très bien que le commandant qui prendrait la décision de détourner un porte-conteneur pour sauver la vie d'un marin cambodgien ne ferait pas une très longue carrière. Donc, ça n'est plus possible et nous devrions le savoir.
sans parler des clandestins, ça je l'ai appris en lisant votre livre, qu'on jette carrément à la mer parce que ça serait trop de tracasseries administratives que de les remettre à la police à l'arrivée au port ou...
Effectivement, sans compter les clandestins africains majoritairement, que l'on jette par-dessus bord, ça arrive, je ne l'ai évidemment pas vu. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur des portes-conteneurs dans l'Atlantique. Et les portes-conteneurs qui prennent des passagers comme moi ne s'amusent pas à ce genre de choses. Mais les marins parlent beaucoup. Ils ont vu des choses comme ça. On parle beaucoup aussi dans les ports. J'ai entendu parler d'exemples très, très, très précis. Pour une raison simple et qui peut me paraître d'autant plus monstrueuse qu'elle coûte très peu cher, c'est que l'armateur est tenu de payer le billet de retour des clandestins par avion. Alors, il n'est pas question qu'il paye ça.
On préfère s'en débarrasser. Et c'est en ce sens qu'on ne peut pas dire le passé est le passé. D'une façon comme ces infirmières, le passé se conjugue au présent pour vous,
d'une certaine façon. Le passé n'est pas terminé. Et je pense que mon travail d'écrivain consiste à montrer ces choses du doigt. C'est pourquoi mes livres sont intitulés Faits, F-A-I-T-S. Ce ne sont pas des fictions, ce n'est pas des romans, ce sont des choses extrêmement précises. Je cite mes références en fin de volume, comme dans un ouvrage savant. Je ne veux pas passer pour un écrivain qui écrit de la fiction. Je suis quelqu'un qui regarde autour de moi et qui montre du doigt. Vous avez bien vu cela ? Vous avez entendu parler de ça ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Voilà mon travail.
Et votre dernier ouvrage, donc sur la scène intérieure, est sous-titré d'ailleurs « Fait ». Alors, oui. Ce n'est pas « Fait 4 », parce qu'il y a eu « Fait », « Fait 2 », « Fait 3 » et sur la scène intérieure, mais... d'une certaine façon, vous marquez là une continuité avec votre œuvre.
C'est une continuité. Simplement, au lieu de regarder vers l'extérieur, je regarde vers l'intérieur.
Vous tournez votre regard. Même si vous répugnez à parler de votre vie, puisque, comme vous l'écrivez également, la Shoah, en quelque sorte, vous a dépossédé de votre biographie. Tous les événements qui se sont passés ensuite apparaissent secondaires au regard de celui-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quel métier vous avez exercé marin, donc, si on
non,
en déduit.
Pas marin, non, non, non. Dans ma petite enfance, j'aurais aimé être marin. Non, non, j'ai toujours travaillé comme journaliste, comme reporter plus exactement. Je m'imaginais mal dans un bureau, comme rubricard, comme on dit dans cette profession. Non, non, j'ai toujours été reporter, puis grand reporter. J'ai toujours estimé que c'était un privilège rare que d'être payé pour apprendre des choses que l'on ne savait pas et pour aller les voir de près.
Et comment vous situez ce livre, en fait, par rapport au reste de votre œuvre ? Est-ce que... Je ne sais pas, c'est pour vous il est à part ou au contraire un aboutissement presque logique. Vous avez dit bon, une sorte de conversion du regard de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il y a quand même des points communs entre ce livre, même s'il parle de vous, enfin indirectement, et les autres. Même si pour la première fois vous dites « je ». Dans cette manière de vous emparer justement des objets, des faits... et dans cette langue qui est particulièrement, alors peut-être pas sèche, mais objective en tout cas.
C'est une continuité, mais il n'y aura pas de suite à ce livre. Il est unique. Je ne peux pas continuer à écrire sur mes parents. Tout ce dont je pouvais me souvenir et tout ce que j'ai pu apprendre se trouve déjà là. Tous les documents aussi. Et au dernier volume de faits, j'ai fait suivre le titre de... la mention « Suite et fin ». Je pense qu'il y a dans l'écriture quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui me semble extrêmement important, c'est la notion de risque. Je pense qu'un écrivain est quelqu'un qui doit prendre le risque de pousser quelque chose à ses conséquences ultimes. Et je pense que pour un écrivain, le succès est très, très voisin de l'échec. Je pense qu'un livre réussi, c'est un livre qui est presque raté, mais qui au dernier moment suscite quelque chose d'assez fort pour qu'on puisse le retenir. S'il était tellement mauvais, tellement loupé, ce livre, il ne retiendrait pas l'attention d'un éditeur. Donc il faut se raccrocher aux branches au tout dernier moment, mais il faut prendre le risque de louper quelque chose. Et quand j'ai écrit le premier livre de fait, je n'étais pas sûr du tout que Gallimard s'intéresserait à ce genre d'ouvrage. On aurait très bien pu me demander, mais qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre ? Et j'aurais été obligé de répondre que finalement, il y avait très peu de choses de moi. Maintenant, on ne me dirait plus ça chez Gallimard, donc il faut faire autre chose.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce livre, que vous avez mis si longtemps finalement à écrire, même si vous dites qu'il se devait d'être écrit, il y avait un impératif ou une injonction muette qui vous a poussé à l'écrire, vous a, d'une certaine façon, fait connaître aussi davantage ?
Je ne sais pas, vous voulez parler de...
En termes de notoriété aussi, enfin, vous amène d'autres lecteurs
Ce serait un peu paradoxal parce que je pense que ce livre, pour aller au fond de ma pensée, ça n'était pas à moi à l'écrire, j'aurais aimé que d'autres personnes l'écrivent à ma place, mais il se trouve que ce sont toujours... les fils des victimes ou les ayants droit moraux qui se sentent tenus de parler des victimes ou de se souvenir des victimes. J'aurais beaucoup aimé que quelqu'un vienne m'interviewer pour me faire parler de ma famille, mais ça ne s'est pas présenté et ça ne se présentera pas. Par ailleurs, vous parliez de notoriété à propos de ce livre. Est-ce que ce livre m'a apporté quelque chose ? Il y a une phrase de Maurice Blanchot disant dans l'écriture du désastre, il y a un degré de la souffrance humaine au-delà duquel l'exercice d'un art devient une insulte à cette douleur. J'étais tout à fait conscient de cela. Et si on me félicite pour ce livre, il est évident que ça me fait mal. Car effectivement, cela fait un livre de plus dans ma bibliographie. Voilà en gros dans quelle ambiguïté je me trouve avec ce livre.
Je vous remercie Marcel Cohen. Je rappelle que le Musée d'art et d'histoire du judaïsme organise une rencontre lecture avec vous le jeudi 21 novembre à 19h30. Et Rachel, pour la semaine prochaine ?
Oui, nous vous invitons à la rencontre au Mémorial de la Shoah pour une perspective européenne sur les restitutions. En présence de Greg Schneider, le directeur de la CLEMS Conférence, Philippe Alouche, directeur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Rana Lessing et Thomas Gergely, qui représenteront respectivement les fondations autrichiennes et belges. C'est donc le 20 octobre 2013, à partir de 14h30, au Mémorial de la Shoah.
Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche prochain. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net.